Alors bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez suffisamment. Prends courage et tiens bon. Tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre, de la loi. Médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors, tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien, ne te laisse pas effrayer. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué, chapitre 1, versets 7 à 9. Alors ce sont les paroles que l'Éternel, notre Dieu, prononce après la mort de Moïse à Josué. Josué choisit pour lui succéder et mener le peuple d'Israël au pays promis. L'Éternel appelle donc Josué à se lever et à prendre la tête du peuple et de saisir la promesse de recevoir en héritage le pays promis. L'Éternel va s'attacher à encourager Josué et lui promet d'être avec lui, de ne point le délaisser et de ne point l'abandonner. Mais l'Éternel Dieu encourage aussi Josué à rester attaché à la loi et à travers elle à rester attaché à lui, afin d'agir fidèlement. Et l'Éternel lui dit, c'est alors que tu réussiras. Et je crois que c'est un enseignement pour nous aujourd'hui aussi. Dans la parole de Dieu, nous sommes encouragés à rester attachés à Dieu, comme l'Éternel Dieu lui le dit à Josué, et lui remettre en toutes choses nos besoins et lui demander conseil. Alors je vous invite à lire dans la parole de Dieu un passage qui se trouve dans le deuxième livre des Rois. Et nous lirons à partir du au chapitre 6, du verset 1 à 7. Donc dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 6, verset 1 à 7. Un jour, les disciples des prophètes dirent à Élisée : Tu vois que la salle où nous sommes réunis avec toi est devenue trop petite pour nous. Permets-nous d'aller jusqu'au Jourdain. Là, chacun de nous taillera une poutre et nous la rapporterons pour construire une nouvelle maison. Élisée leur dit : Allez-y. Mais l'un d'eux le pria : Accepte de venir avec tes serviteurs. Et il répondit : D'accord, je viens. Il descendit donc avec eux, et arrivé au Jourdain, ils abattirent des arbres. Et pendant que l'un d'eux abattait son arbre, le fer de sa hache tomba dans l'eau. Alors il s'écria : Ah, mon maître, quel malheur ! C'était une hache empruntée. L'homme de Dieu, Élisée, lui demanda : Où est tombé le fer ? L'homme lui indiqua l'endroit. Alors Élisée tailla un morceau de bois et le lança au même endroit. Aussitôt, le fer revint à la surface. Et le prophète dit : Ramène-le à toi. L'autre n'eut qu'à tendre la main pour le reprendre. Alors avant de regarder un petit peu ce passage, remettons-le dans son contexte. Le passage que nous venons de lire se trouve dans le deuxième livre des Rois, qui forme avec le premier livre des Rois toute l'historique d'Israël de la fin du règne du roi David jusqu'à la destruction de Jérusalem et jusqu'à l'exil à Babylone. Et le livre des Rois relate durant cette période toute la succession des rois en Israël. Mais durant ces récits, l'auteur ne s'attache pas à montrer seulement les conquêtes et le règne de ces rois. Il montre aussi leur attitude, l'attitude des rois et l'attitude du peuple envers l'Alliance, envers le culte à Dieu. Et à travers ces deux livres, nous y trouvons l'intervention régulière des prophètes, représentant les porte-paroles de Dieu auprès des rois. Et c'est l'époque des prophètes Élie et Élisée, notamment. Élisée qui veut dire « Dieu est mon salut » est le fils de Shaphat, Ris, propriétaire d'Abel-Méola, disciple et successeur d'Élie. Élisée apparaît pour la première fois dans la parole de Dieu lorsque Dieu s'adresse à Élie sur la montagne à Horeb. Le ministère d'Élie va se situer à un moment donné où les Syriens de Damas, c'est comme ça qu'ils sont appelés, sont les ennemis d'Israël. Et le prophète Élisée va être à ce moment-là le porte-parole de Dieu devant le peuple et devant le roi d'Israël. Mais les prophètes comme Élisée ne s'attachent pas simplement à être des porte-parole des rois, c'est aussi des personnes qui interviennent directement auprès du peuple. On a l'exemple d'Élie avec la veuve de Sarepta. Élisée qui intervient lui-même auprès de la fille du fils pardon de la Tsunamite. Et Élisée qui intervient aussi directement, et nous l'avons vu il y a quelque temps, auprès de Naaman le Syrien. Et c'est après cette histoire de la guérison de Naaman, chef de l'armée de roi de Syrie, que se situe notre passage. Il vient juste après, là. Et il nous est dit que Élisée est dans un lieu d'habitation, un lieu où il a l'habitude de se réunir pour enseigner ses disciples. Et lorsque nous lisons ce passage, ce qui frappe avant tout, c'est le miracle qu'accomplit Élisée. Alors, beaucoup de personnes ont prêché sur ce miracle. Beaucoup d'études théologiques ont même été faites sur ce miracle-là. Mais dans ce passage, il n'y a pas que ce miracle. Et si on regarde d'un peu plus près le déroulement de tout le passage, nous verrons qu'il nous apporte un enseignement sur l'attachement. Alors le constat est fait, le lieu où ils se trouvent est trop étroit. Peut-être parce qu'ils sont de plus en plus nombreux à écouter Élisée, peut-être aussi parce que le lieu commence à être un peu fatigué, usé. Et donc, il semble pour les disciples d'Élisée que ce soit important de trouver un autre lieu pour pouvoir se réunir. Tu vois, dit-il, la salle où nous sommes réunis avec toi, où nous sommes devant toi, dans d'autres traductions, est devenue trop petite pour nous. Il décide donc de construire une nouvelle salle, un nouveau lieu plus grand pour se réunir. Or, quelle bonne intention ! Les disciples qui viennent voir Élisée pour dire « Ah ben nous, on a décidé de prendre notre courage à deux mains et on va construire un nouveau lieu plus grand, plus spacieux et refaire une habitation qui soit neuve et on pourra enfin se trouver dans une situation plus confortable. » Mais je trouve que c'est une bonne intention. C'est même louable que de dire que ces jeunes disciple prend à bras le corps ce défi pour pouvoir faire un lieu d'habitation plus grand. Mais ce qui est intéressant dans leur projet, c'est leur démarche. Et la démarche de ces disciples, c'est de soumettre leur projet à Élisée. Ils ne sont pas partis d'eux-mêmes pour aller construire, aller chercher des poutres pour construire une habitation. Ils font d'abord part de leur projet à leur maître. Au verset 2, il nous est dit « Permets-nous d'aller jusqu'au Jourdain. » Permets-nous d'aller jusqu'au Jourdain. Ils consultent Élisée pour leur projet et semblent attendre de lui son accord. Et Élisée d'ailleurs leur donne en disant « Allez. » Il semble important ici pour les disciples de se tourner d'abord vers leur maître et de finalement recevoir son consentement avant d'entreprendre quoi que ce soit. Alors tout aurait pu se terminer là, pour Élisée, regardant partir ses disciples en direction du Jourdain pour accomplir leur projet. Mais les disciples n'attendent pas simplement le consentement de leur maître. En effet, au verset 3, nous avons ce témoignage d'un des disciples qui dit à Élisée, « Élisée, consent à venir avec nous. » Consent à venir avec nous. Les disciples souhaitent avoir le consentement d'Élisée, mais les disciples souhaitent aussi que Élisée les accompagne, que Élisée puisse les assister pendant leur entreprise. Ils souhaitent ne pas être seuls dans leur projet. Et que de plus naturel que leur maître soit avec eux. Élisée accepte et les suit. Il dit, c'est bon, j'irai. Alors arrivés au Jourdain, ils se mettent au travail, comme ils avaient pensé le faire. Ils coupent du bois, ils sont tous certainement bien occupés dans leur œuvre, avec leur matériel. Tout se passe comme ils avaient prévu de le faire. Mais pendant leur travail, à un moment donné, un problème arrive et va venir stopper net leur projet. Et en effet, leur outil principal, alors il ne nous est pas dit qu'il n'y en a qu'une, mais en tout cas c'est un outil principal, une hache pour couper des poutres. La hache qui leur permet d'accomplir la construction de leur lieu de réunion se dérobe et maladroitement le fer tombe dans l'eau. C'est ballot. C'est la catastrophe. Ça ne pouvait pas tomber plus mal. Eux qui étaient si contents de pouvoir accomplir cette tâche se trouvent en tout cas ralentis, même s'il ne nous est pas dit qu'il y en a plusieurs, ils se trouvent en tout cas ralentis et voient leur effort finalement anéanti par la perte d'un outil principal pour leur travail. Ils ne peuvent plus avancer. Et à ce moment-là, la réaction des disciples de Élisée peut encore surprendre. On pourrait dire, les disciples, ils étaient pleins de courage pour aller construire une habitation, il en fallait. Ils avaient décidé à prendre tout ça à bras-le-corps. Et là, au moment où arrive une tuile, la réaction des disciples est assez spéciale. Au lieu de trouver une solution par eux-mêmes, peut-être en se jetant dans l'eau, tout de suite en ayant le fer tombé, ils auraient pu se jeter pour aller chercher le fer là où il était, à chercher une solution par eux-mêmes et réfléchir comment on va pouvoir le récupérer. Les disciples se tournent à nouveau vers Élisée et leur adressent leur désarroi. « Ah mon maître, quel malheur, c'était une hache empruntée !» Ce cri des disciples est un appel au secours. Un appel au secours envers leur maître. Cet appel au secours, ce cri, témoigne aussi de leur impuissance. L'impuissance et l'incapacité personnelle à trouver une solution. Mais il témoigne aussi d'une autre chose. Il témoigne aussi de leur confiance envers leur maître. Cette confiance qui les pousse à se tourner constamment vers Élisée. Et si nous regardons leur manière d'agir depuis le début de cette aventure, les disciples n'ont jamais rien fait, jamais, sans d'abord consulter Élisée. Et il était donc tout à fait naturel qu'au moment de l'épreuve, ils se tournent d'abord vers lui pour trouver une solution. Ils n'ont pas d'abord regardé à eux-mêmes, ils ont d'abord regardé à Élisée. Alors quelle va être la réaction d'Élisée ? Élisée s'approche et les interpelle en leur disant « Mais où est tombé ce fer ?» Et on lui montre la place. D'ailleurs, on lui montre l'endroit exact où il est tombé. Parce qu'Élisée coupe un morceau de bois, le jette à la place où il pense qu'il est tombé, et c'est justement là qu'il est tombé, puisque le fer remonte de cet endroit-là. Élisée répond à leur demande. Il permet de récupérer le fer au travers de ce miracle et ils peuvent alors reprendre leur construction. Allez-y, reprenez-le. Les disciples connaissaient précisément l'endroit où était tombé le fer et il s'avère que c'était le bon endroit, mais ils ont préféré encore une fois s'en remettre à Élisée plutôt qu'à eux-mêmes. Alors nous voyons par ce miracle qu'a accompli Élisée qu'il savait comment délivrer de l'épreuve ses disciples. quand il leur pose cette question, où est-il tombé? Il savait déjà comment il allait délivrer les disciples de l'épreuve. Tout était possible à ce moment-là pour les disciples qui se tournaient vers Élisée. Et tout le déroulement de ce passage nous démontre vraiment la volonté de ces jeunes gens de remettre toute chose entre les mains de leur maître. Leur projet, l'assistance d'Élie pendant l'accomplissement de leur projet, leur demande d'aide, de secours lorsqu'ils se trouvent dans l'embarras. À chaque instant, ils se retournent vers leur maître. Alors vous l'avez vu, ce passage nous donne un enseignement important. Un enseignement important de ce qu'il convient de faire dans notre vie chrétienne lorsqu'on entreprend. Lorsqu'on souhaite entreprendre quelque chose, ou même tout simplement dans notre relation personnelle avec Dieu. Et cet enseignement, c'est de chercher sa volonté. C'est de savoir se soumettre à sa volonté. C'est de savoir demander son assistance. C'est savoir aussi avoir confiance pendant l'épreuve. Ne rien faire sans Dieu et lui rester attaché. Et c'est les paroles de l'Éternel à Josué. L'Éternel lui dit, si tu restes attaché, alors tu réussiras. Ici, les disciples sont à l'image de ce que peut être le chrétien. Celui qui soumet toutes ses décisions au Seigneur et qui lui demande de l'accompagner dans tous ses projets. Élisée, quant à lui, est l'image de Jésus, l'image de celui qui est présent, qui attend qu'on lui demande, qu'on lui soumette toute chose, et qui est aussi, au moment de l'épreuve, tout puissant pour nous délivrer, même quand on ne l'imagine pas possible. Rien n'était possible à Dieu. En Philippiens 4, au verset 6, nous lisons « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, avec des supplications et des actions de grâce. » Nous avons la certitude que lorsque Jésus est avec nous, il ne nous abandonnera pas. Alors vous avez vu, cela n'empêchera pas l'épreuve. Cela n'empêchera pas l'épreuve. Nous devrons la traverser, comme les disciples d'Élisée devaient traverser cette épreuve, même matérielle, ils devaient la traverser. Mais au travers de cette épreuve, Élisée leur a donné le moyen d'en sortir. Nous avons dans le deuxième épître de Pierre, au chapitre 2, ce verset que je vous invite vraiment à retenir. Chapitre 2, verset 9, de deuxième épître de Pierre. C'est un verset très court, mais très puissant. « Ainsi le Seigneur sait comment délivrer de l'épreuve ceux qui lui sont attachés. » Nous avons cette promesse et cette certitude que le Seigneur sait comment délivrer de l'épreuve ceux qui lui sont attachés. Tout comme Élisée savait comment délivrer de l'épreuve ses disciples qui lui étaient restés attachés. Alors imaginons deux minutes, un peu plus, un quart d'heure, ce qui se serait passé si les disciples ne s'étaient pas remis entre les mains d'Élisée. Quelle aurait été leur attitude s'ils n'avaient pas dit à Élisée « consent à venir avec nous ». Ils avaient le consentement d'Élisée pour aller travailler, il n'était pas nécessaire qu'ils viennent. Quelle aurait été leur attitude au moment de l'épreuve? Élisée n'aurait pas été là pour les sortir du pétrin dans lequel ils s'étaient mis. Ils se seraient peut-être disputés entre eux. Ils se seraient peut-être accidentés. Ils auraient peut-être pris peur. Ils en auraient même peut-être voulu à Élisée de n'être pas venu avec eux. Pourquoi est-il pas venu? C'est toujours quand on a besoin de lui qu'il n'est pas là. Alors maintenant, je voudrais vous raconter une histoire. Une histoire qui est aux antipodes de l'histoire qu'on vient de raconter. Une histoire qui marque une importance quand on ne s'attache pas à Dieu. C'est une histoire qui se situe à un moment particulier de la vie du roi David. C'est une histoire qui n'est pas facile à trouver dans la Bible. David va à un moment donné de sa vie, celui que l'on considère selon le cœur de Dieu, qui ne faisait jamais rien sans consulter Dieu, va à un moment donné de sa vie préférer agir selon sa propre volonté plutôt qu'en la soumettant à Dieu. Et vous allez voir les conséquences que cela peut avoir dans sa vie et même dans la vie de ceux qui l'entourent. David est devenu le roi d'Israël. Il est reconnu comme tel par le peuple et par ses ennemis. Et il veut faire remonter l'arche de l'Alliance, l'arche de Dieu, qui avait été prise par les Philistins, de la maison d'Abinadab vers Jérusalem. Et il y avait déjà donc beaucoup de temps que cette arche avait été prise par les Philistins, combien importante, et qu'elle avait été déposée chez Abinadab, à 16 km au nord-est de Jérusalem. Et David donc souhaite faire ces 16 km de l'arche jusqu'à Jérusalem. Et alors, il suit un protocole bien particulier. Il convoque tous les anciens, tous les chefs d'Israël qui approuvent ce projet. Ça part d'un bon sentiment, exactement comme pour les disciples d'Élisée, que l'arche de l'Alliance soit dans la cité de David, au cœur du pouvoir, à Jérusalem. Parce que là où est l'arche de l'Alliance, Dieu est présent. Donc ça part d'un bon sentiment et le peuple ne fait que approuver ça. Mais dans ce projet, David ne va pas chercher Dieu selon la loi. C'est-à-dire qu'il ne va pas s'attacher à Dieu dans sa décision. Pourtant, David avait l'habitude de consulter l'Éternel avant toute entreprise. C'est peut-être même un des rares dans la Bible où c'est noté de manière aussi précise pour chaque question. Lors de sa victoire sur les Philistins, David va s'attacher à consulter l'Éternel avant toute action. Il nous est dit en 2 Samuel 5, verset 17, et je vous le lis. Lorsque les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi d'Israël, ils décidèrent de monter tous à sa recherche, pour l'attaquer bien sûr. David, qui en fut informé, descendit de la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. Alors David consulta l'Éternel. Il dit, « Dois-je monter contre les Philistins ?» Et l'Éternel lui répond, « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » David vient à Baal-Bératsim et les bâtit. Et il dit, « L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. » C'est pourquoi on a donné à ce lieu le nom de Baal-Bératsim. Ils laissèrent là leurs idoles, et David et les gens les emportèrent. Les Philistins décidèrent de monter à nouveau contre David. Et ils se répandirent à nouveau dans la vallée des Réphaïm pour l'attaquer. Et on pourrait dire, David, il sait ce qu'il doit faire, puisque la fois d'avant, Dieu lui a dit qu'il fallait qu'il monte. C'est le même endroit. Ils sont situés exactement à la même place, donc il faut faire la même chose. Mais David préfère encore une fois, malgré tout, consulter l'Éternel. Et il a bien fait. Parce que cette fois-ci, l'Éternel ne lui dit pas d'agir pareil. Il lui dit, tu ne monteras pas. Tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu attendras un bruit de pas dans la cime des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour abattre l'armée des Philistins. David fait alors ce que l'Éternel lui a ordonné, et il bâtit à nouveau les Philistins, depuis Geba jusqu'à Gézer. Il reconsulte l'Éternel, il se soumet à la volonté de Dieu, et il réussit dans son entreprise. Mais Aujourd'hui, ils décident de ne pas agir selon la loi. Aujourd'hui, pour faire monter cette arche de la maison d'Abinadab jusqu'à Jérusalem, ils décident de ne pas faire comme les disciples d'Élisée. Ils décident de ne pas consulter l'Éternel et ils décident de ne pas s'attacher à la loi de Moïse. Et c'est d'autant plus important puisque l'arche de l'Alliance doit être transportée d'une manière bien précise selon la loi de Moïse. Et alors il prend deux décisions, David. Deux décisions qui vont être lourdes de conséquences. Sans consulter Dieu, il décide de faire transporter l'arche sur un char neuf, au lieu que ce soit sur un épaule, sur les épaules. Et au lieu de la faire transporter par des personnes consacrées à ce service, les Lévites, il est fait transporter par ceux qui habitaient dans la maison d'Abinadab, des gens de la maison d'Abinadab. Et donc tout ce petit monde part pour transporter l'arche jusqu'à Jérusalem. Et je vous lis donc ces paroles. Tout ce passage, toute cette histoire, vous l'avez dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 13, du verset 1 à 14. Et cette même histoire, vous l'avez aussi en 2 Samuel 6, du verset 1 à 11. Et ces deux passages se complètent l'un l'autre. C'est pour ça qu'il faut avoir ces deux passages. David rassemble donc tout Israël, depuis le torrent d'Égypte jusqu'à Lebo Hamath, pour faire venir l'arche de l'Alliance de Kirjath-Jearim. David, avec tout Israël, se rend donc à Baala, dans le territoire de Juda, pour en ramener le coffre de Dieu. L'Éternel qui siège entre les chérubins et sur lequel le nom par excellence a été invoqué. On chargea le coffre de Dieu sur un chariot neuf, après l'avoir pris de la maison d'Abinadab. Uzza et Ahio conduisaient le chariot. David et tout Israël exprimaient leur joie devant Dieu, en chantant de toute leur force, en jouant des lyres, des luths, des tambourins, des cymbales, des trompettes. C'est la fête, on est joyeux, parce que l'arche va revenir à Jérusalem. Mais lorsqu'ils furent arrivés près de l'aire de Kidom, alors qu'ils pensaient que tout se passe bien, allait bien se passer, comme les disciples d'Élisée d'ailleurs, les bœufs qui conduisent le char neuf font un gros écart. Et à ce moment-là, Uzza, un de ceux qui conduit le char qui n'est pas habilité à le conduire, tend la main pour saisir l'arche pour éviter qu'elle tombe. Et à ce moment-là, l'Éternel le frappe parce que l'Éternel se mit en colère contre Uzza parce qu'il avait touché le coffre de sa main. Uzza mourut là devant Dieu. David s'irrita. Il s'irrita parce que l'Éternel avait ouvert une brèche en frappant Uzza. Et il appela ce lieu Pérets Uzza, nom qu'il porte encore aujourd'hui. Et ce jour-là, David eut peur de Dieu. Et il se demanda « Comment oserais-je faire venir le coffre de Dieu chez moi maintenant ?» Alors il ne transporta pas le coffre chez lui à Jérusalem. Il décida de l'éloigner de lui, de la cité de David, et le fit déposer dans une autre maison à Obed-Edom, un homme originaire de Gath. Le coffre resta là pendant 3 mois, et l'Éternel bénit la famille d'Obed-Edom et tous ses biens. Le projet du roi David de transporter l'arche de l'Alliance jusqu'à Jérusalem partait d'un bon sentiment, d'une bonne intention, et c'était un bon projet. C'était un projet que Dieu reconnaissait comme juste. Mais il va ne pas le faire selon la loi. Il ne va pas rechercher Dieu pour le faire transporter. Et la conséquence est terrible. Elle est terrible parce que Uzza meurt. Il meurt parce qu'il est frappé par Dieu. La conséquence est terrible parce que David va s'irriter contre Dieu de cela. Il nous est dit aussi après que David va avoir peur de Dieu en ce jour-là. Une fausse peur, parce qu'il ne comprend pas pourquoi l'Éternel vient de frapper Uzza de la sorte. Quatrième conséquence, il ne veut plus de l'arche chez lui. L'arche de Dieu qui signifie la présence de Dieu, il ne la veut pas. Il la fait transporter dans une autre maison à Obed-Edom qui reçoit la bénédiction à sa place. C'est Obed-Edom qui pendant 3 mois va être béni par l'arche. Il va donc éloigner finalement Dieu de lui. Il ne comprend pas. Parce qu'il ne comprend pas, il éloigne Dieu de lui. Et il perd la bénédiction qu'il aurait pu avoir à Jérusalem. Mais à un moment donné, David va comprendre son erreur. On vient lui dire que la maison d'Obed-Edom est bénie par l'Éternel. Et là, David commence à comprendre que le problème ne vient pas de Dieu, parce que la bénédiction, elle est bien là. Le problème ne vient pas de Dieu, mais vient de sa propre attitude. Alors David commence à faire un chemin sur lui-même. Et il décide de changer de comportement. Il comprend qu'il n'a pas cherché Dieu comme il convient et selon sa volonté. Alors il décide de ramener l'arche de l'Alliance à Jérusalem, comme c'était prévu, à l'endroit où il y avait préparé une place. Et nous avons cette décision de David un peu plus loin, toujours dans le livre des Chroniques, 1 Chronique 15, versets 1 à 26. Alors je ne vais pas tout vous lire, je vous invite à le faire, mais David comprend qu'il s'est trompé. David comprend que son irritation contre Dieu, son irritation et sa peur n'est pas le fait de Dieu, mais le résultat de sa désobéissance, le résultat de son entêtement, le résultat de sa volonté de ne pas chercher à agir selon la loi. Et il comprend qu'il faut chercher Dieu, non pas selon ses propres convictions, mais selon la loi, c'est-à-dire selon ce que veut Dieu pour sa vie. Et alors ce que va faire David là, c'est reconnaître publiquement, vous imaginez le roi David, qui va reconnaître publiquement qu'il s'est trompé. Il dit au peuple qui est devant lui, et notamment aux Lévites, « L'arche de Dieu ne doit pas être portée par quelque d'autre que des Lévites. » Il reconnaît sa première erreur. « Car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. » Il proclame la vérité de la parole de Dieu. Et il continue, en disant aux Lévites, « Parce que vous, Lévites, vous n'y étiez pas la première fois. La première fois qu'on a transporté l'arche, vous n'y étiez pas parce que j'avais omis que vous y soyez. L'Éternel Dieu nous a frappés parce que nous ne l'avons pas cherché selon la loi. » David dit, notre Dieu nous a frappés parce que nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Nous sommes tous fautifs. Alors cette fois-ci, ils vont s'attacher à faire selon la loi de Moïse. Il nous est dit, ce sont les fils des Lévites qui portèrent l'arche de Dieu et ils vont la porter sur leurs épaules, avec leurs barres, comme Moïse leur avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Ils vont s'attacher et se soumettre à la volonté de Dieu. Et vous savez ce que nous lisons ? Nous lisons qu'ils vont faire tout ce trajet, cette fois-ci une partie du trajet, puisque l'arche est à Obed-Edom, ce trajet jusqu'à Jérusalem. Et il nous est dit au verset 26, eh bien que ce fut cette fois-ci avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Cette fois-ci, ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Si tu restes attaché, je serai avec toi et je ne t'abandonnerai pas. Il a fallu du temps à David pour comprendre. Il l'a compris et il a été béni. Alors quelle peut être la conséquence ? La conséquence pour nous, à notre tour, de vouloir en faire qu'à notre tête dans notre vie, et d'essayer de faire rentrer Dieu finalement dans nos plans et de faire les choses comme nous on aimerait bien les faire. Et bien pour chacun, ce peut être des difficultés. Des difficultés du même ordre qu'a connu David. Et ces premières difficultés, c'est de nous faire emprunter des chemins qui nous éloignent de Dieu. Exactement comme David. Exactement comme David, parfois on peut s'irriter contre Dieu. On peut même parfois avoir peur de Dieu parce qu'on ne comprend pas. Et on peut aussi, enfin, éloigner Dieu de nous parce qu'on pense que la faute ne vient pas de nous, mais qu'elle vient de Dieu. Que la faute ne vient pas de notre comportement, mais qu'elle vient forcément de quelque chose d'autre. Mais est-ce qu'au moins on a cherché la volonté de Dieu? Est-ce qu'au moins on a consulté l'Éternel? Est-ce qu'au moins, comme les disciples d'Élisée, à toutes les étapes de notre réflexion, on a cherché et on a soumis nos projets à la volonté de Dieu? Ou est-ce qu'on a préféré en faire, à un moment donné, selon notre propre intelligence? Cela n'enlève en rien notre intelligence que de soumettre à la volonté de Dieu nos projets. Au contraire, au moment de l'accomplir, cela donne du poids, des certitudes, de la volonté et de la réussite. Même si on doit traverser des épreuves. Ce qui est en commun dans ces deux histoires, c'est que cela n'a pas empêché qu'il y ait des épreuves dans les deux situations. Et dans les deux situations, Dieu a permis d'en sortir. Je crois que pour l'Église aussi, ça peut être important. Cela doit nous enseigner aussi que on peut prendre aussi parfois des décisions que l'on croit bonnes, des décisions qui peut-être ne sont pas soumises à la volonté de Dieu et qui peuvent entraîner aussi des difficultés. En tout cas, je crois que ce n'est pas le cas ici. Mais je crois qu'on doit toujours se poser cette question: avons-nous consulté Dieu? Et lui sommes-nous attentifs? Même si, comme David, cela part d'un bon sentiment, ce qui est de notre propre désir n'est pas forcément de Dieu. Et surtout, comme Dieu le souhaite. Alors ce matin, je voudrais simplement terminer au regard de ces deux passages, parce que j'étais encouragé par ces deux passages à soumettre toute chose à Dieu. Et je voudrais à mon tour vous encourager à soumettre toute chose entre les mains de Dieu, à rechercher d'abord Jésus avant d'entreprendre quoi que ce soit dans vos vies. Et si vous êtes irrité contre Dieu, pour une raison ou une autre, si vous avez peur de Dieu pour une raison ou une autre, parce que vous n'avez pas compris quelque chose, ou si vous avez même décidé d'éloigner Dieu de vos vies, pour une raison ou une autre, Dieu souhaite une seule chose, c'est que vous reveniez vers lui. C'est la volonté de Dieu que de le rechercher et de lui soumettre toute chose. Je voudrais terminer par ces paroles de Jésus. Jésus nous dit en Luc 11 au verset 9, « Moi je vous dis... » Et vous les connaissez, ces paroles. « Moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » C'est une promesse de Dieu. Ce que veut Jésus, c'est qu'on change notre manière de penser. Qu'on regarde d'abord à lui. Qu'on cherche d'abord la solution en lui. Qu'on lui demande à lui. Qu'on s'adresse à lui. Qu'on se tourne vers lui. Et nous avons cette promesse, car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. C'est une promesse de Dieu. Il ne nous laissera pas.